Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Se trouver un défaut ou recevoir une critique et jour après jour, cette chose, cette remarque, parfois insignifiante, prend de plus en plus de place, jusqu'à prendre trop de place. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des complexes. Se trouver trop petit, gros, mais aussi timide ou stupide, car cet auto-dénigrement peut concerner aussi bien le physique que le caractère ou l'intelligence. Rester bloqué sur une partie de son apparence, détester sa voix, ses jambes, son nez, idées fixes, obsessions qui peuvent créer des souffrances, de l'anxiété, poussé jusqu'au repli, à l'isolement. Alors, comment identifier ces complexes et en chercher l'origine? Est-ce que c'est vraiment utile pour s'en débarrasser? Y a-t-il des méthodes pour retrouver confiance en soi? Vous avez la parole, vous témoignez. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités sans complexe. 33 1 84 22 75 75 ou sur la page Facebook de l'émission. Physique ou psychique, d'où viennent les complexes, défauts réels ou imaginaires, et surtout comment se débarrasser de ces complexes? On vous retrouve en studio, docteur Frédéric Fanget, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute à Lyon, vous êtes l'un des auteurs de l'ouvrage collectif « La confiance en soi, comment croire en vous » aux éditions Les Arènes BD. Le regard d'un spécialiste au Mali tout à l'heure, on retrouvera en ligne Ibrahim Aïdara, il est psychologue au cabinet de psychologie Psy2A à Bamako. Et puis en fin d'émission, ce sera le moment de parler activité physique et santé avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
On l'a bien compris, c'est complexe, physique, psychologique, retentissement sur le bien-être, sur la santé. Docteur Fanget, dans votre pratique, est-ce que vous avez pu constater que certains complexes étaient particulièrement destructeurs et envahissants?
Oh oui, le point de départ, c'est qu'effectivement, je suis spécialisé dans le traitement des troubles anxieux sévères. Et dans les troubles anxieux, on a un trouble qu'on appelle le TOC, dont les auditeurs ont certainement entendu parler, le trouble obsessionnel compulsif. Et on a des gens qui vont s'attacher de manière extrêmement obsessionnelle à un point précis de leur physique. Mais souvent, ils vont dire « j'ai honte auprès de mon entourage » parce que j'ai pas grand-chose quand même. J'ai juste un gros nez, j'ai des dents jaunes, j'ai des choses comme ça. Mais l'envahissement mental que ça va entraîner chez eux, les conséquences mentales, les conséquences comportementales. J'ai des patients qui évitent d'aller voir les autres, etc. En fait, c'est les conséquences qui sont graves.
Donc ça agit y compris sur le comportement, parce que c'est vrai que se trouver quelques kilos en trop, une peau pas tout à fait nette, c'est quelque chose qui peut arriver. À partir de quel moment on parle d'un vrai complexe?
On parle de vrai complexe par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire à partir du moment où il envahit la vie des gens, où il les gêne dans leur vie professionnelle, dans leur vie relationnelle, dans leur vie amicale, dans leur vie personnelle, etc.
Ça veut dire que tout complexe ne mérite pas forcément de consulter?
Heureusement, parce que vous savez, selon un sondage, il y a 7 femmes sur 10 qui sont insatisfaites de leur corps. Alors si jamais elles consultaient toutes, déjà qu'on n'a pas beaucoup de place en psychothérapie.
Ça ferait beaucoup. Et les hommes, leur corps, ça va par contre?
Non, les hommes commencent à consulter. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Les hommes viennent chez le psy. C'est totalement nouveau, en particulier la jeune génération. Je pense que le Covid y a un peu été pour quelque chose. Les gens se sont retrouvés enfermés. Et du coup, on a beaucoup développé la consultation à distance avec les moyens informatiques. Et du coup, on a beaucoup de jeunes hommes qui sont venus à la consultation.
Alors pour ces complexes, il y en a certains qui n'ont aucun lien avec la réalité, quand on parle du physique bien sûr, d'autres qui peuvent être liés à un trait existant. Est-ce que la dimension réelle ou imaginaire, ça avoir un impact sur le retentissement et peut-être aussi sur la difficulté à s'en débarrasser?
Pas tant que ça. Alors le problème de s'en débarrasser, là, je vais très vite attirer l'attention des auditeurs sur le fait, avant d'aller vous faire opérer pour un point de votre physique, méfiez-vous de bien réfléchir à quelles autres options vous auriez. On en parlera bien sûr.
Est-ce que ça ne veut pas d'ailleurs dire que c'est pour ça que dans la plupart des cas, avant une opération par exemple de chirurgie esthétique, on a un entretien, il devrait y avoir un entretien psy.
Il faudrait y avoir un entretien psy et il faudrait systématiquement dépister les problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, qui sont dans ma pratique présents chez pratiquement toutes les personnes, non pas qui ont des complexes, parce qu'il y a plein de gens qui supportent bien leurs complexes, mais qui souffrent de manière trop intensive de leurs complexes. Quand il y a une souffrance, un décalage entre l'intensité de la souffrance qui est énorme et la petitesse du complexe, à mon avis, il faut demander un avis psy.
Et dans certains cas, on le disait, certains complexes sont fondés sur le physique, par exemple, d'autres non. Là, du coup, est-ce qu'on est dans le complexe ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Dans quelque chose qu'on va dire qui peut être plus grave et avoir un retentissement sur le comportement beaucoup plus important.
Alors oui, il y a tout un continuum. Bon, écoutez, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aient pas du tout de complexe, ouais. Franchement. Si on les pousse jusqu'au bout, il n'y a pas quelque chose que vous n'aimez pas dans votre corps ou dans votre façon d'agir ou même dans votre niveau de culturel ou intellectuel. Moi, j'ai beaucoup d'hommes, on parlait des hommes tout à l'heure, par exemple, j'ai beaucoup d'hommes qui disent « moi, je n'ai pas de culture, je ne sais pas quoi dire dans une conversation ». Ça entraîne une énorme souffrance.
La dévalorisation.
La dévalorisation de soi parce qu'on n'a pas le même niveau culturel que les gens qui travaillent avec nous, par exemple. Donc, non, je pense qu'il y a des gens qui supportent, heureusement, la majorité très bien leur complexe. On va dire d'ailleurs comment on fait pour supporter. Simplement, il suffit de voir les autres choses qu'on a en nous que notre défaut. Et puis, il y a des gens chez qui ça entraîne une immense souffrance jusqu'au handicap sévère qui nécessite une prise en charge médicale. Et entre les deux, vous avez tous les intermédiaires.
Docteur Fong, j'ai trouvé des arguments. Quand on est dans l'entourage et qu'on dit « tu trompes, t'es très bien comme ça », ça sert à quelque chose ou pas vraiment ?
Ah non. Il faut écouter. Il faut écouter la souffrance. En fait, le problème de l'entourage, c'est qu'il répond sur le complexe lui-même. Prenons un exemple. Bon, disons, j'ai un gros nez, par exemple. Bon. Ou je suis chauve. Hein, je crois qu'il faut dire à vos auditeurs que quand même, votre invité n'a pas un poil sur le caillou.
D'accord.
Et depuis l'âge du 20 ans, ça devrait rassurer ceux qui souffrent
ça
de
calvitie. Ça vous a complexé ? On n'est pas
jamais
là pour faire votre cure,
jamais.
Mais...
Jamais. Surtout quand on m'a expliqué que c'était un excès de testostérone, je peux vous dire, ça m'a complètement rassuré. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire.
Donc, on trouve aussi le bon argument pour contrer le complexe qui pourrait naître. C'est quelque chose d'important.
Le bon argument, non. L'entourage, il faut écouter la souffrance. Ne restez pas sur le nez ou les dents ou la calvitie. Ce n'est pas ça le problème. Répondez, en tout cas, à votre ami, à votre frère, à votre sœur. Écoute, en tout cas, j'entends que pour toi, c'est une vraie souffrance. Et ça, il faut l'écouter, la souffrance. Parce que si on n'écoute pas la souffrance, l'autre, on se disqualifie, l'autre ne nous parlera plus et il va se renfermer dans son complexe et sa souffrance. Et ça, c'est le pire. Il faut les aider, l'entourage a un rôle énorme, les aider de sortir de l'isolement. C'est une vraie souffrance, il faut la prendre en considération. D'ailleurs, ne vous croyez pas obligé d'apporter des solutions à l'entourage, parce que l'entourage vient me voir en disant « qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce qu'il faut dire ?» C'est pas grave.
Écouter, c'est déjà pas mal.
Vous n'êtes pas des soignants. Commencez par écouter, montrez-leur que vous attachez de l'importance. Par contre, on va le dire, je peux le dire tout de suite, parlez-leur de tout leur bon côté, de tout ce que vous aimez en eux, parlez-leur de tout ce qu'ils ont de bien, pour qu'ils replacent ce défaut physique dans un contexte global de ce qu'ils sont, avec tous leurs points forts aussi.
Et je vous le dis, quand je vous regarde, je ne vois pas que votre crâne. Je vois le docteur Frédéric Fonget dans son ensemble.
C'est pour ça que je fais de la radio plutôt que de la télé.
Question importante que pose Léopold du Cameroun sur notre sujet du jour. Quand on est complexé par la timidité, est-ce que ça peut passer avec l'âge ? Alors, est-ce que ce facteur de la maturité, laisser passer les années, ça peut soulager ou pas forcément ?
Alors, la timidité, ça c'est vraiment un truc qui m'a passionné depuis 30 ans parce qu'il y a 60% de gens timides. Mais il y a 5% qui ont ce qu'on appelle une phobie sociale avérée, anxiété sociale avérée, qui est une timidité excessive avec la peur du jugement des autres. Cette peur du jugement des autres, il y a un lien évident avec le complexe, c'est la peur du regard des autres sur soi. Si jamais on manque d'estime de soi, on manque de confiance en soi, on s'accorde une valeur plutôt négative à nous-mêmes et on a peur que les autres la voient. Donc cette anxiété sociale, c'est 5% de la population et là, c'est à prendre en charge médicalement. Par contre, la timidité... Alors, pour répondre à la question, il y a beaucoup de timidité qui passe en post-adolescence, début de l'âge adulte, parce que les gens vont avoir des expériences de réussite, en amour, en professionnel. Donc, de ce côté réservé, timide qu'ils avaient, ils vont pouvoir établir des liens. Ils vont aussi tomber, je reviens sur l'entourage, c'est essentiel, sur un entourage bienveillant, sympathique, qui va les aider à s'exprimer. Donc, ça peut s'auto-guérir. Par contre, si vous avez 40, 50 ou 60 ans, vous êtes toujours timide et que ça vous handicape, là, il faut peut-être consulter.
Alors, première illustration, on part pour le Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Suzanne. Bonjour Suzanne.
Bonjour Caroline.
Suzanne, 38 ans, 4 enfants. Ce qui vous a longtemps complexé, vous, c'est votre poids. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ressenti ? On remonte donc à la période où vous étiez plutôt mal dans votre peau.
Ok, merci. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai 38 ans, j'ai 4 enfants. Les 3 derniers ont 5 ans, 3 ans et 1 an.
Oui.
Donc, c'était des grossesses très rapprochées. Et entre ces grossesses-là, j'ai pris plus de 30 kilos.
Mmh.
Et ça a été vraiment difficile parce que j'avais pas le temps de reprendre, que j'étais à nouveau enceinte, etc. Et personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup souffert du regard des autres, jusqu'à très, très récemment, parce que j'avais toujours des remarques, surtout sur mon ventre, où on me posait la question de « Ah, tu es enceinte ? Ah, c'est pour quand ?» Alors que je ne l'étais plus.
Il y avait des commentaires que, un petit peu mal placés, mais ce n'était pas de la faute des gens, c'était juste un défaut de connaissance. Par contre, dans votre entourage, par exemple, votre époux, qu'est-ce qu'il vous disait, lui ?
Bah, par contre, mon mari, me disait, il hésitait en fait le sujet. Mmh. Il me disait « t'es bien comme ça, tu viens de faire un bébé, donc ça va revenir ». Donc lui, il n'y avait pas vraiment de commentaires mal placés, mais je lui en voulais, bizarrement. Parce que j'attendais de lui en fait qu'il me mette une pression pour me dire « non, il faut que tu te reprennes ». Il faut que tu fasses du sport, mais lui, pas du tout. Il était plutôt dans l'encouragement.
Et dans la gentillesse. On entend une auditrice qui reproche à son compagnon d'être gentil, mais en même temps, à ce moment-là, vous avez dit grossesse très rapprochée. Vous deviez être exténuée, extrêmement fatiguée, non ?
Oui, j'étais fatiguée. En fait, franchement, j'ai fait même un burn-out par rapport à tout ça, parce que je me sentais vraiment faible et impuissante, en fait. J'arrivais pas à aller faire du sport, j'arrivais pas à avoir une alimentation différente.
Et quand on vous entend, Suzanne, excusez-moi, vous dites tout ça au passé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous faire, en quelque sorte, remonter la pente ?
Ce qui a changé vraiment, c'est que je pense que je me suis dit, tu te fais du mal pour le regard des autres. S'ils passent à leur vie, en fait. Donc, je me suis dit, bon, le regard des autres va dépendre du regard que moi-même j'ai sur moi.
Ouais.
Et ça, c'est arrivé à un moment où j'avais ras-le-bol, en fait, parce que je voulais m'habiller différemment. Et je me suis dit, c'est leur regard, c'est pas mon regard. Et c'est ça vraiment qui a fait mon déclic, en fait. Et je me suis dit, attends, t'as un mari, finalement, qui t'apprécie. Donc, parce que je lui en voulais, c'était des moments difficiles pour lui. Parce que je disais qu'il était dans le déni, il faisait que j'avais l'impression de me prendre pour quelqu'un de... J'étais folle, en fait. C'était moi seule qui voyais ça. Et finalement, aujourd'hui, je lui suis reconnaissante de ne pas m'avoir plongée plus, en fait.
Alors, ça va mieux aujourd'hui, mais malgré tout, Suzanne, vous avez des questions, on écoute ces questions.
Oui, j'ai des questions parce que, en fait, j'ai fait, comme j'ai dit tout à l'heure, un burn-out. Et dans l'intervalle, j'ai reçu un traitement avec du magnésium, des somnifères à petite dose pour m'aider à dormir parce que j'étais très anxieuse et stressée. Et je voulais savoir, en fait, si... Parce que ma crainte, c'était de savoir est-ce que ces médicaments n'allaient pas accentuer ma prise de poids. Ça, c'était la première des choses. Et si aussi le stress était aussi un facteur qui aurait pu booster, en fait, cette prise de poids-là.
Alors, bien évidemment, on n'a ni un nutritionniste ni un médecin généraliste avec nous en studio. Mais je pense que, de toute façon, le docteur Fanget était extrêmement attentif à ce que vous nous avez raconté, notamment votre mal-être après ces grossesses extrêmement rapprochées, puis votre façon aussi de remonter la pente. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Suzanne, docteur Fanget ?
Si Suzanne veut être psychothérapeute, je la prends comme collaboratrice parce qu'elle a tout à fait compris. D'abord, elle a choisi un bon mari. Je voudrais attirer votre attention, Suzanne, sur le fait que vous avez employé plusieurs fois le mot « déni » pour votre mari. Mais ce n'est pas sûr qu'il déniait le problème. Peut-être que pour lui, ce n'était pas un problème. Votre poids. Et du coup, il a eu cet effet extrêmement important que peut avoir l'entourage de montrer, bah, tu vois, moi je t'aime et moi, pour moi, ce n'est pas un problème, je t'aime avec ce poids-là. Et je pense que c'est un des éléments qui vous a permis de trouver vous-même, toute seule, la solution thérapeutique dans ce que vous avez expliqué dans le regard des autres. Effectivement, ce qui compte dans le regard que les autres portent sur nous, c'est le regard, vous avez dit ça, que nous portons sur nous-mêmes. Et à partir du moment où la personne complexée va arriver à ne plus voir que son complexe, mais à voir qu'elle est une personne pleine de qualité, aimée, entourée, eh bien, elle aura beaucoup moins peur du regard des autres. Donc, bravo pour ça. Et encore une fois, envoyez-moi vos coordonnées, je vous engage. Pour les médicaments que vous citez, non, ne donnent pas de prise de poids. Alors, je ne veux pas traiter les médicaments obsessifs, c'est un très grand sujet, mais très schématiquement, les médicaments qui donnent du poids sont essentiellement les médicaments neuroleptiques et éventuellement le médicament qui est le lithium, qui sont donnés dans des pathologies mentales très particulières. Les médicaments tels que ceux que vous prenez ne risquent rien, ne vous inquiétez pas. Quant à la question de l'attitude à avoir par rapport à vos amis, je veux bien la relever parce que vous dites que, comme beaucoup de gens complexés, la plupart des gens disent ça, ils ont honte de leur complexe, ils n'osent pas en parler parce qu'ils donnent l'image de quelqu'un de bien, de fort. Eh bien, vous savez, se révéler, ce qu'on appelle la révélation de soi, être authentique avec des amis, si les amis vous aiment vraiment, si vous révélez que vous êtes gêné par ça, vous allez peut-être avoir une sacrée surprise, à savoir qu'elles aussi, comme votre mari, elles continueront à vous accepter avec votre complexe. Et vous voyez, donc ça peut valoir le coup. Choisissez bien les amis qui vous en parlent.
Oui, c'est ça, il y a vraiment une question de confiance.
Il faut choisir les amis bienveillants, on est bien d'accord. Mais ça peut approfondir une relation. Et puis, elles aussi, elles ont peut-être des petits défauts dont elles ne parlent pas.
Et ça leur permettra aussi d'en parler.
Le fait de parler de vous, comme ça, vous paraîtrez plus humaine.
Voilà, un grand merci à vous, Suzanne, pour ce témoignage. On a une question Facebook de Marie-Fleur du Burkina. Là, c'est l'inverse. Hein. Elle explique que depuis 2 ans, elle a perdu 5 kilos. Ses clavicules ressortent. On lui a dit que ce n'était pas joli. Depuis, elle évite de porter des tenues qui laissent les épaules nues. Au Burkina, il fait chaud. Ça doit être compliqué. Alors, Marie-Fleur souhaiterait avoir des conseils pour dépasser ce complexe. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre ? Là, par contre, c'est l'inverse. Commentaire un petit peu malveillant ou peut-être même simplement assez anodin, mais qui l'ont marqué.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas qui lui a dit ça, mais peut-être que les gens dans l'entourage, à partir du moment, ce qu'il y a chez elle, c'est que le physique change. Elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a un changement. Donc, dans le regard des gens qui l'entourent, elle introduit un changement. Donc, les gens le remarquent. Après, c'est à elle de choisir si elle veut masquer ce défaut apparu de clavicule qui dépasse avec des vêtements amples. Elle a le droit. C'est son choix. Personne n'a le droit de lui donner des ordres à ce sujet-là. Ou alors, elle peut choisir, comme je viens un peu de l'expliquer précédemment, de s'assumer avec son défaut dans le regard des autres, de bien laisser ses clavicules comme elles sont, parce que ma foi, elle est comme ça. Et si ça gêne le regard des autres, c'est le problème des autres, plus que le sien.
Selon son propre ressenti. Docteur Fanget, on va prendre d'autres appels en direct, bien sûr, ce sera juste après Thundercats dans Priorité Santé avec Them Changes. Priorité santé sur RFI, les complexes, les identifier, trouver des pistes pour essayer de s'en débarrasser, toujours avec le docteur Frédéric Fanget, psychiatre et psychothérapeute à Lyon. Ça m'amène à vous poser une question dans l'esprit, qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce que ce sont, docteur, les complexes qui abîment la confiance en soi ou est-ce que c'est une faible confiance en soi qui rend plus vulnérable aux complexes?
Ah, je vais me porter en Normandie pour vous répondre les deux.
Voilà. C'est comme ça. On a le témoignage d'une infirmière à Nancy. C'est très intéressant parce qu'elle pose une question sur l'une de ses patientes. Nancy, elle est de la RDC, de la République démocratique du Congo, et elle explique qu'elle a une adolescente drépanocytaire. Elle a les yeux jaunes parce que c'est un signe d'anémie chronique. Et elle constate qu'elle a aussi un retard de puberté, cette jeune femme. Sa poitrine ne se développe pas comme ses amis. Ça la rend colérique, ça la complexe. Et Nancy aimerait avoir des conseils pour apaiser, donc pour aider cette jeune fille. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ah, c'est une excellente question, mais très difficile. Ouais. Nancy me pose une grande difficulté. Un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... en plus, elle doit y aller l'infirmière va soigner le trouble, le problème, le défaut. Donc peut-être qu'elle peut, elle aussi, parce qu'elle doit la connaître maintenant, sa patiente, lui parler de tout ce qu'elle aime en elle, dans ses comportements, dans les autres aspects de son physique, etc. etc. Je pense que c'est important qu'elle l'aide. Je ne sais pas si sa patiente a beaucoup de retours positifs. Elle peut aussi peut-être, Nancy, jouer un rôle auprès de l'entourage en expliquant à l'entourage que c'est important qu'ils valorisent leur fille malgré sa maladie.
Malgré sa maladie. Tout de suite, on a un message. Il est signé Aminata de la Guinée. Témoignage sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour RFI, c'est Diallo Aminata depuis Guinée-Conakry. J'ai 33 ans. Alors, je suis née avec des marques de naissance qui ont divisé carrément mon visage en deux. Et quand j'étais plus jeune, je voulais coûte que coûte que ces marques disparaissent et tout. Mais mon entourage m'a fait comprendre que c'est des marques de naissance et qu'il n'y avait pas de produit pour les alléger. Après, quand je rencontrais des personnes, les sages, les aînés, on me disait que c'était des marques de naissance, des marques de chance et tout. Donc pour rien au monde, je devais les enlever ou penser à les enlever. Sauf que moi, ça me déprimait. Quand j'étais avec mes copines, mes amis, je regardais leurs visages et ils avaient des visages clean et tout. Du coup, je me sentais un peu inférieure par rapport à eux. Le pire, c'est que quand je me mire, j'aime pas du tout mon visage devant le miroir et tout. Mais avec les années, je me suis dit, ok, accepte-le comme ça, t'es née comme ça, t'es très belle et tout. J'essaie de me donner des raisons, mais il y a des fois où franchement, ça ne marche pas parce que jusqu'à présent, il y a des moments où je me sens vachement gênée et tout. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour accepter ces marques de naissance et être moi-même et sans avoir à me gêner autant quand je suis avec d'autres personnes. Merci.
Aminata qui fait un gros travail sur elle-même hein, d'auto-persuasion, mais c'est difficile quand même avec cette tâche de naissance. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Fanget?
Ben, nous avons un animateur de télévision qui a une tâche Litvin énorme,
en France,
qui se produit en France, M. Reichmann, depuis des années, qui en parle d'ailleurs pas mal, ce témoignage est à écouter. Donc ce qu'on apprécie en lui, c'est pas sa tâche Litvin, c'est tout ce qu'il fait quand on l'écoute. Voilà. Il ne faut pas que ce problème de visage, dans la mesure où il est congénital et inenlevable, vous empêche de faire votre vie. Et là encore, alors vous savez, moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec des paraplégiques et des tétraplégiques. Et donc j'avais des gens en fauteuil en face de moi. Et quand je faisais un entretien psychiatrique avec ces gens-là, il y en avait qui étaient mal dans leur peau et je voyais toujours qu'ils étaient sur un fauteuil au bout d'une demi-heure discussion. Il y en a d'autres, au bout d'une minute, j'avais complètement oublié qu'ils étaient sur un fauteuil parce qu'ils m'avaient parlé de tant d'autres aspects d'eux-mêmes. Donc je crois que c'est ça, Aminata, la solution, c'est de voir tout ce que vous avez d'autre que cette tâche Litvin. Et puis de toute façon, eh ben, les gens qui vous aiment et les gens qui vous apprécient, ils feront avec parce que c'est pas là-dessus qu'ils vous jugeront.
On a une question du Cameroun, c'est Aurélie sur Facebook, elle explique « Je suis complexée par ma condition sociale, je suis au chômage, je me suis coupée de mes anciens camarades de classe et quand je suis avec eux, je me sens en décalage, j'ai le sentiment que je n'ai aucune compétence, je n'ai pas encore fondé de famille, comment est-ce que je peux surmonter ce complexe ?» Moi j'ai dit « J'ai le sentiment que je n'ai aucune compétence » parce que Aurélie, elle a écrit « Je n'ai aucune compétence ».
Ah oui.
Et on voit que finalement, son complexe, il a fini par la convaincre qu'elle n'avait pas de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Alors, c'est important la remarque que vous faites, Caroline, entre j'ai ou j'ai le sentiment, je n'ai pas de compétence ou j'ai le sentiment. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les problèmes d'estime de soi, c'est que les gens confondent ce qu'ils sont et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Si vous avez une mauvaise estime de soi, vous avez une image négative de vous. Donc vous allez dire, je ne me sens pas compétent, je ne me sens pas compétente. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas compétent. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur sans arrêt se poser la question de cette idée que j'ai. D'abord, arrêter les affirmations du style « j'ai aucune compétence ». Peut-être faire un bilan de nos compétences personnelles. Souvent, je vais faire un petit exercice qui est le bilan du passé, c'est-à-dire que la personne note tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est née, et elle note en particulier tout ce qu'elle a fait de positif. Et si elle n'arrive pas à avoir des choses positives en elle, parce qu'elle est enfermée, ben là encore, on demande à deux ou trois personnes qui nous aiment, qui nous connaissent depuis longtemps, quelles sont mes compétences, quelles compétences tu as vues dans ma vie. Et on remet tout ça, il faut faire deux temps en fait, mes points forts et mes points faibles. Et puis après, eh ben, chacun d'entre nous, il a des points forts et des points faibles. Et on est un peu mieux quand on cherche à ne pas être parfait.
C'est sûr qu'Aurélie a beaucoup de valeur.
Il faut qu'on parle du perfectionnisme.
C'est sûr. Autre message enregistré, c'est le témoignage d'Adrien de Yaoundé. Par souci d'anonymat, sa voix a été modifiée, on l'écoute tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Adrien. Je suis âgé de 35 ans et je réside à Yaoundé. J'ai un complexe qui me dérange depuis, qui porte sur une calvitie qui se crée sur ma tête. Auparavant, je n'avais pas cette calvitie-là, mais avec le temps, mon entourage me faisait cette remarque-là, qu'il y a un vide sur ma tête et moi je négligeais. Au point où il y a des moments où mes amis m'intriguaient. Donc quand je me suis rendu effectivement compte, j'ai commencé à acheter des produits pour faire pousser la chevelure, question que ma chevelure soit uniforme. Mais il y a toujours une différence qui se fait voir. Donc à cet endroit, les cheveux ne poussent pas normalement. Ça me gêne vraiment. Et je mets aussi des chapeaux pour cacher cet handicap-là, pour qu'on ne puisse plus se moquer de moi. La question que je voudrais poser est celle de savoir comment se comporte dans la société lorsqu'on a un complexe et qu'est-ce qui a lieu de faire. Parce qu'à un moment donné, nous sommes obligés de nous replier sur nous-mêmes et avoir honte de nous-mêmes. Merci.
Adrien, on sent une certaine souffrance chez cet auditeur du Cameroun. En même temps, il explique qu'on s'est moqué de lui. Alors, c'est vrai que sa calvitie à 35 ans, ça peut lui provoquer un complexe, mais ces moqueries, il y a aussi la perception qu'on a finalement, il y a des choses où on peut nous faire une simple réflexion et on peut percevoir aussi cela comme une moquerie.
Oui, puis il y a des moqueries qui sont réelles.
Réelles, bien sûr.
Il y a des gens qui sont tout contents de vous rabaisser pour se donner de la valeur à eux-mêmes. Il faut se méfier des gens qui se moquent de nous. C'est souvent eux-mêmes qui ont un problème de manque de confiance en eux. Et qui croient que pour avoir confiance en soi, il faut rabaisser les autres. Alors ça, certainement pas. Donc peut-être il faut... Moi, je suis assez ému par le témoignage d'Adrien, je dois dire. Peut-être il faut qu'il se rende compte que ces gens qui se moquent de lui ne méritent peut-être pas que lui se cache de tout ça. Je pense qu'il pose le problème de la différence par rapport aux autres. C'est sûr que si vous arrivez avec une certaine tenue dans un groupe qui est habillé totalement différemment... vous êtes différent, donc vous pouvez chercher la moquerie. On voit beaucoup ça à l'adolescence. À l'adolescence, les adolescents se groupent
hors norme
par look. Bon, écoutez, Adrien, vous avez le droit d'essayer de cacher votre calvitie. Il existe maintenant des traitements pour faire pousser les cheveux qui marchent dans certains cas. Vous avez le droit. Il vaut mieux ça. Le pire, je vais vous dire, c'est ce que vous dites quand vous dites que vous avez honte et que vous repliez. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Si pour sortir de la honte et du repli, il faut mettre une casquette ou utiliser des produits pour les cheveux, ben, c'est déjà mieux. Par contre, après, si jamais les produits ne marchent pas, si jamais vous n'arrivez pas à vaincre la calvitie, je vous donne un deuxième conseil qui est d'aller voir ma photo sur un des réseaux sociaux. Voilà. Et le troisième conseil, ça sera effectivement ce qu'on a dit aux autres auditeurs tout à l'heure, c'est réécouter l'émission si vous ne l'avez pas fait, à savoir de remettre cette calvitie dans l'ensemble. Quelles sont vos qualités, Adrien ?
Vos yeux.
Vous en avez certainement, de toute façon.
Votre sourire.
Comme vous vous exprimez, on sent bien que vous êtes un homme plein d'émotions, plein de sensibilité. Voilà, eh ben, il faut accepter, c'est des qualités, ça aussi.
On a un autre auditeur, c'est pas très loin ce qu'il nous explique, Eric. Eric a 22 ans seulement et il a constaté qu'il avait des dents jaunes et qu'on se moque de lui. Il y a le docteur Fanger qui fait le zouave à côté de moi et qui met sa casquette pour montrer qu'avec ou sans, il est très bien, c'est pareil. Donc on a Eric, je reviens, s'il vous plaît, revenez avec nous, docteur. Ce cas, il a les dents jaunes et lui, il le dit là. Il a voulu se faire blanchir les dents, le dentiste a été raisonnable, il lui a dit, c'est pas la peine parce que finalement, Eric, vous avez des dents en bonne santé, elles ont une teinte un peu jaune, mais c'est pas le problème. Il n'empêche, Il évite les conversations, il se replie et ça lui a même valu des problèmes dans ses études puisqu'il attribue un redoublement à ce problème de dents jaunes parce qu'il n'ose plus s'exprimer en public tout simplement. Donc là, c'est un complexe qui est assez sévère et qui est extrêmement douloureux. Et Eric demande à qui en parler, comment justement renouer un lien pour sortir de ce complexe extrêmement douloureux.
Alors, vous pouvez. Alors, c'est un peu le même,
oui,
le même
c'est
témoignage
le même cas de figure,
que
ouais, tout à fait.
Monsieur précédent. Hein, vous voyez, les hommes sont complexés, ils ont des témoignages assez proches les uns des autres. Vous ne voulez pas en parler un peu entre vous, les hommes, complexés déjà? Vous savez, les femmes, elles parlent entre elles souvent, ça leur fait beaucoup de bien. Les hommes, ils ont honte de se parler entre amis. Il faut présenter cette image de parfait, de perfection, de force, de virilité. Non, écoutez, déjà, commencez à en parler avec des bons amis, peut-être aussi avec des amis femmes. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de mes dents jaunes? Tu es mon ami, est-ce que toi
est-ce
ça te
gêne? Est-ce que c'est si grave finalement?
Est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça gêne notre relation? Etc. Et sinon, c'est les conseils qu'on a donnés depuis tout à l'heure, défocaliser le plus possible et voir ses qualités.
Une auditrice de Côte d'Ivoire, c'est Rebecca Abidjan. Rebecca, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aussi, complexe physique, qu'est-ce qui, chez vous, dans votre anatomie, vous pose problème?
D'accord, je suis Rebecca de Abidjan, j'ai 22 ans et je suis complexée par rapport à mon ventre.
Complexée par rapport à votre ventre, est-ce que vous êtes en surpoids, Rebecca?
Pardon?
Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce qu'on vous fait aussi des commentaires sur votre allure en général ou c'est juste votre ventre qui, en fait, attire toute votre attention?
D'accord, je pèse 56 kilos et je porte des habits de taille ample. Alors, mon ventre ressort trop et ma taille.
Vous trouvez que votre ventre ressort. Est-ce que c'est parce que vos vêtements vous serrent au niveau du ventre et que finalement, vous sentez toujours comme ça, cette espèce de ceinture sur vous qui est extrêmement désagréable?
Non, ce n'est pas seulement le problème des habits. Parfois, je porte des habits de taille L, mais c'est trop large que moi.
Oui. Et est-ce que vous avez pensé à faire prendre des habits de taille L et les faire ajuster, parce que je sais que sur la place d'Abidjan, on trouve des couturières à tous les coins de rue, au marché, partout. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre finalement des habits tout simplement qui vous vont bien?
Oui, qui me vont bien, c'est mieux, parce que les habits de taille L, c'est plus large que moi.
Oui, mais vous prenez du L, vous allez chez la retoucheuse et elle vous la met à votre taille.
Ça ne marche pas parce que mes amis m'ont fait toujours des remarques.
Ah, les amis sont là aussi. Donc, il y a ce problème du regard des autres. Docteur Frédéric Fanget, c'est vrai que quand on est jeune, 22 ans, qu'on trouve qu'on a une partie de son corps qui ne nous va pas, on se sent mal à l'aise, et qu'en plus, on est mal à l'aise, on est gêné par les vêtements, tout ça, ça crée des problèmes quand même.
Alors là, je vais encore parler de moi parce que je suis fils de couturier, figurez-vous. Et mes parents, mon père a passé sa vie
à retoucher.
Avant le prêt-à-porter, ça n'existait pas, à adapter les vêtements aux femmes en fonction de leur esthétique physique. D'ailleurs, c'est peut-être pas anodin dans ma carrière professionnelle, avec un père comme ça, qui faisait du sur-mesure. Donc, ce que je vous propose, c'est exactement ce que Caroline vient de vous dire. C'est-à-dire que vous précisez bien que votre ventre ressort parce que vous avez une petite taille aussi. Donc, effectivement, il faut adapter un vêtement et c'est probablement pas si compliqué. Maintenant, si vous avez honte avec vos amis, moi, je vous conseille de faire la liste de vos amis, d'essayer de voir laquelle accepterait le mieux votre désir d'avoir un vêtement adapté et vous faire accompagner par elle chez la couturière. Et là, il faut peut-être en parler, faire une liste de toutes vos amies et voir laquelle vous paraîtrait la plus susceptible de vous aider dans ce sens-là.
Pour trouver une réponse très très concrète à ce problème qui est légitime, mais effectivement trouver une solution. On vous remercie beaucoup Rebecca, on part maintenant pour Bamako.
Priorité santé sur RFI.
C'est donc au Mali qu'on vous retrouve, Ibrahim Haïdara, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur Fanget.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychologue au cabinet de psychologie Psy2A. Notre sujet des complexes, est-ce que c'est un grand motif de consultation au sein du cabinet où vous exercez?
Alors, un grand sujet, non, mais ça commence à prendre l'ampleur. Au début de mes activités en 2017, quand je suis rentrée de France, on en parlait peu. Et maintenant, ça commence à devenir un sujet presque quotidien dans les consultations.
Vous expliquez ça comment, ce changement, qu'on prenne de plus en plus en compte, justement, ces complexes, davantage d'intérêt pour l'image?
Ah oui, exactement comme en Europe. Bon, peut-être de façon exagérée en Europe, parce que la gente féminine, on ne veut pas dépasser 60 kilos, alors qu'ici,
Oui, les critères, notamment au niveau de l'anatomie, ne sont pas tout à fait les mêmes. On regrette, le son n'est pas très très bon. Essayez de vous rapprocher le plus près possible de l'appareil, s'il vous plaît, Ibrahim Haïdara. C'est complexe. Est-ce qu'il y a des normes, des modèles, on en parlait? Et est-ce que les gens ont du mal, oui ou non, à en parler, à discuter autour d'eux de ces choses, de leur physique ou de leur mental qui leur posent problème?
Ah oui, effectivement, les gens commencent à avoir beaucoup de mal. C'est pour ça qu'ils viennent voir les psychologues. Donc, on tient compte du regard des autres. Le docteur Congé l'avait dit, toujours ce regard des autres qui commence à peser sur la gêne féminine ou masculine. Donc, les gens ont peur d'en parler parce que la réaction des autres n'est pas forcément ou ne sera pas forcément agréable. Et donc, du coup, on vient voir le psychologue pour avoir un autre avis, prendre mieux soin de soi, de son image, et comme ça, pouvoir mieux avancer dans la vie.
Est-ce que vous notez aussi dans les consultations certains complexes qui sont liés à des sujets tabous? Je pense bien sûr à la santé, l'activité sexuelle, la sexualité.
Exactement, exactement. Justement, en plus de l'obésité qui commence à être un problème assez récurrent dans nos consultations, il y a ce fameux problème de sexualité, parce que la sexualité a toujours été un sujet tabou. Culturellement, on n'en parle pas, même au sein des couples, ce n'est pas forcément un sujet ouvert pour monsieur ou pour madame. Donc, on a honte, on se gêne, on n'est pas à l'aise.
Et mais donc, des complexes de quel ordre, Ibrahim Haïdara? C'est par rapport à la performance? C'est par rapport à la physionomie? Je ne sais pas, la taille des seins, la taille du sexe, ce genre de questions?
Exactement. Pour les hommes, c'est surtout la performance qui commence à être un sujet percutant. Et ensuite, la taille. Parce qu'il y en a qui pensent qu'avec, excusez-moi du terme, un petit zizi, on ne peut pas aller loin. Alors que ce n'est pas forcément cela.
Et c'est donc, vrai que dans nos émissions de jeudi, on entend aussi le complexe du temps. Combien de temps on tient? Et ça, c'est vraiment une question clé.
Tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement aussi des hommes qui pensent que plus le coït va durer, plus on va être performant. On veut tirer le plus loin que possible, en guillemets. Et donc, la question de la libido devient quelque chose de très, très difficile et délicate, en quelque sorte. Et pour les femmes, justement, pour revenir pour le côté féminin, c'est justement la morphologie. Les seins, les hanches, on avait depuis très longtemps un regard assez positif envers les femmes rondes, qui sont un peu fortes, qui ont une bonne apparence physique. Et maintenant, on commence à changer. Les hommes commencent à changer de regard. Ils veulent des femmes pas forcément grosses, qui ont des belles formes, et mais du tout pas très faciles à avoir. Et il y a aussi cette question de dépigmentation qui commence à être un sujet aussi très, très délicat dans les consultations et aussi sur le point culturel.
Tout un point de normes, justement. En quelques mots, parce que le temps passe très vite, qu'est-ce que vous proposez comme type de thérapie? Il nous reste 30 secondes.
Alors, bien évidemment, on demande aux gens de venir voir les psychologues. Ce n'est pas évident parce que, encore une fois, comme j'ai régulièrement été invité sur vos antennes, la psychologie n'est pas quelque chose de très accessible financièrement et puis aussi culturellement.
Et ça, c'est vraiment un point important à dire. Quand on en a la possibilité, on le dit, ça sera le mot de la fin, docteur Frédéric Fanger, parce que vous l'avez répété plusieurs fois au cours de cette émission, on consulte un psy quand c'est nécessaire, mais surtout, on en parle autour de soi avec des personnes bienveillantes.
Oui, si j'ai une seconde pour faire le lien, je veux juste dire un mot qui peut aider les auditeurs. Là, on a beaucoup parlé de performance sexuelle, performance physique. L'estime de soi, il y en a trois. Il y a l'estime de soi performance, je vais vite, je m'aime lorsque je suis performant. Moyennant quoi, vous êtes obligé d'être performant et parfait. La deuxième estime de soi, c'est l'estime de soi liée à l'approbation des autres. Je m'aime lorsque les autres m'aiment. Là, vous êtes dépendant des autres. Et je glisse une petite phrase par rapport au regard des amis. Qu'est-ce qui compte pour vous, messieurs, mesdames? Le regard de tout le monde? De tous ceux qui vous entourent? Ou le regard de ceux qui vous respectent? Et la troisième estime de soi, et ça, écoutez bien, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi inconditionnelle. C'est-à-dire que je m'aime encore, je me respecte, même lorsque j'ai été pas performant, j'ai été un vrai loser sexuellement, la nana, elle m'a envoyé bouler, et ben je m'accorde encore une valeur à moi-même. Et ben développez votre estime de soi inconditionnelle.
On va vers la case numéro 3, c'est ça, on l'a bien compris. Oui. Inconditionnellement, merci, docteur Frédéric Fanger, d'avoir donné toutes ces explications et tous ces conseils à nos auditeurs. On va parler de l'activité physique sans les complexes physiques avec le docteur Sen, médecin du sport. Ce sera juste après Dieu de Thiès avec Nabintar.
Leïsan. Salela E mama o ya de salela kombonko na bintawo ya de sali jalambanta E mama o jidi balala yemi E mama o jidi balala yemi kombonko na bintawo Ya di sali jalan banta Na long kabila la tende jombing katabla e musoe Na long kabila la tende jombing katabla e muso Kombong kola mintao Ya di sali jalan banta
L'activité sportive et la santé, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors docteur Sen, médecin du sport, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez étrange dans cette chronique puisque vous allez nous conseiller d'utiliser moins le smartphone. On va voir pourquoi, puisque vous nous le dites, hein, 20% des utilisateurs de smartphones déclarent employer cet outil, cet instrument, cet objet, je ne sais quoi, 2 à 4 heures par jour pour envoyer des messages. Et forcément, il y a des conséquences pour la santé. La tendinite au doigt, par exemple, est-ce que c'est possible?
Ah oui, les anglo-saxons, ils appellent ça le text thumb injury. Ou alors, c'est en français, la ténosynovite de De Carvin. C'est une
vous avez
inflammation...
dit quoi? Non, non, redites-le, parce que vous l'avez vite. Non, non, non.
Le text thumb injury.
Non, mais en français, c'est encore pire.
La ténosynovite de De Carvin.
Ah, ben,
alors, ténosynovite de De Carvin, c'est une tendinopathie, une tendinite effectivement qui est au niveau du pouce et du poignet. On retrouve ça à chaque fois qu'on va devoir en fait pincer son pouce sur le travers de son index. Hein, on pince son pouce sur le travers de son index comme ça et ça on va le retrouver effectivement dans beaucoup de situations. Lorsqu'on tapote sur son écran avec son pouce, lorsqu'on va, certains musiciens, lorsqu'on va essayer de solliciter par exemple les bricoleurs qui vont poncer, qui vont peindre, tout ce mouvement-là où on pince son pouce sur le travers de son index vont entraîner cette tendinopathie. Et évidemment, lorsqu'on va en utiliser beaucoup de textos, on va avoir une douleur, un gonflement, un engourdissement, voire une diminution de force à la saisie du fait de la douleur. Alors, quelques conseils, le but c'est de ne pas plier et fixer systématiquement le pouce pour écrire son texto, peut-être utiliser les autres doigts de la main. Il faut limiter le nombre de textos, évidemment. Pas hésiter, des fois, il y a aussi des applications où on peut, l'écriture intuitive, qu'on peut utiliser, mais quelquefois ça donne des noms
qui ne sont pas tout à fait secrets. Oui, il y a des petites bêtises qui passent. Ouais.
Et puis, que lorsqu'on envoie le texto, pas faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, si on travaille en même temps ou si on fait un sport ou un loisir, on a tendance à appuyer plus fort pour aller plus vite et ça sollicite également. Et bien évidemment, toutes les 30 minutes, on fait des petits exercices de décontraction de la main. On étire la main, on la referme, on pétrit une balle par exemple. Et ça permet vraiment de se relaxer et de diminuer quand même les contraintes sur le tendon.
Alors, on a fait le pouce, les doigts, et maintenant on va passer au cou. Ça fait mal au cou aussi lorsqu'on se penche longtemps pour regarder notre écran de téléphone. Je n'ai pas vu venir celui-là, hein, vraiment.
Absolument, parce qu'en fait, on est penché comme ça en avant, fixé, le regard fixé sur l'écran. Et évidemment, eh bien, ça peut hyper solliciter le cou. Parce qu'en plus, la tête, il ne faut pas oublier, ça pèse 5 kilos hein, quand même. Et donc, quand la tête est penchée en avant, eh bien, les muscles essayent de retenir cette tête, voilà, avec une force excentrique. Et là, évidemment, il y a des douleurs, des contractures, des maux de tête qui peuvent apparaître. On peut même avoir des troubles de la statique vertébrale, c'est-à-dire une hyper, ce qu'on appelle une hyperlordose. On a le cou comme ça qui part en avant, un petit peu comme un oiseau qui serait comme ça penché avec la tête en avant. Alors, pour éviter tous ces désagréments, le but, c'est de réduire autant que possible le nombre de messages. Ça, c'est vraiment important. Et puis, des messages courts, évidemment. On peut faire des étirements. Ça, c'est intéressant. Toutes les 30 minutes, on fait des étirements latéraux, du trapèze, des muscles du cou. On fait des petits mouvements de rotation du cou pour détendre les muscles. On bouge les épaules parce que les muscles partent de la tête mais vont jusque dans les épaules. Hein, des petits mouvements de rotation comme ça, des épaules en arrière et en avant. Et puis, on s'hydrate bien parce que ça, c'est bon pour les muscles, évidemment. Ça évite les contractures. Et puis, si possible, on prend une posture adaptée, c'est-à-dire qu'on met son écran en face des yeux. Hein. On ne met pas l'écran en bas pour baisser la tête. On relève l'écran en face des yeux. Et puis comme ça, on envoie moins de textos.
Pour éviter le torticolifone.
Absolument.
C'est torticolifone. Mauvais, j'ose, mais bon. Allez, le téléphone toujours. Est-ce qu'il a un effet sur le sommeil? Une question, on connaît un petit peu la réponse quand même, docteur.
Et oui, ça a un effet négatif parce qu'il envoie de la lumière bleue. Hein, le spectre de l'arc-en-ciel qui compose la lumière, il y a la lumière bleue, le magenta, qui est particulièrement représentée dans les lumières d'écran. Et là, le problème, c'est que cette lumière, elle est particulièrement pénétrante au niveau de l'œil. Elle va impacter la rétine et au niveau de la rétine, elle va empêcher d'aller sécréter de la mélatonine qui est l'hormone qui sert en fait à déclencher le sommeil. Et donc, ça envoie en fait un signal jour en quelque sorte au niveau de la rétine. Et donc ça, sur le plan biologique, c'est pas bon puisque ça trouble le sommeil. Et si ça trouble le sommeil, évidemment, ça fatigue. En plus de ça, généralement, quand on regarde son écran, on va regarder des choses stimulantes cognitivement hein, parce qu'on voit des choses drôles ou tristes ou qui stimulent. Et ça aussi, ça empêche de dormir. Et puis, dernier effet, c'est l'effet sentinelle. L'effet sentinelle, c'est-à-dire qu'on a le téléphone qui envoie régulièrement des informations,
des
qui sonnent, qui vibrent, des notifications. Et ça aussi, ça trouble, mine de rien, le sommeil. Donc, le mieux, c'est vraiment, pour bien dormir, d'éteindre ces appareils électroniques à une heure ou à une heure et demie avant d'aller se coucher, de ne pas dormir avec son téléphone portable allumé ou en tout cas de le mettre en mode avion pour pouvoir, bien sûr, avoir une nuit de sommeil reposante.
Voilà tous ces conseils extrêmement pratiques. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sani. À très bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise l'émission. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Tom Malky, Pauline Berthélémy et Arthur Geoffroy à la réalisation avec nous aujourd'hui. Demain, on va parler de la tuberculose, symptômes diagnostiques des spécialistes, vos témoignages bien sûr, pour parler des différentes formes d'atteinte, parce que la tuberculose, ça n'est pas simplement les poumons. On parlera bien sûr prise en charge et traitement. Rendez-vous 9h10, temps universel, et d'ici là, bien sûr, restez avec nous sur RFI et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.